Bonjour à tous. Comme un lundi, lendemain de passation aux sources d'Emmanuel Macron, un président philosophe, qui sont ses penseurs référents, quelles sont les idées qui structurent sa pensée et enfin comment les traduire en action avec nous à partir de 1955. Une spécialiste du libéralisme et un biographe de Paul Ricoeur, la philosophe Catherine Audard et l'historien François Doss seront nos invités à partir de 12h55. Et puis toute cette semaine, une série exceptionnelle de 5 chroniques par Brice Couturier, 5 conseils de lecture au nouveau président. Mais d'abord, dans un grand éclat de rire, nous accueillons Alfredo Arias, le franco-argentin qui met en scène le maître de la Commedia dell'arte, Carlo Goldoni à la cartoucherie de Vincennes en ce moment. Il est notre fantaisie du lundi, tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Metteur en scène de théâtre et d'opéra, l'ancien directeur du Centre National d'Aubervilliers retrouve le théâtre de l'Épée de Bois où il a débuté en France, avec Léva Perron de Coppi, son ami. Théâtre baroque, barré, figuré, opéra joyeux ou comédie musicale, ce touche-à-tout de la scène qui place la poésie au cœur de tout et le rire au-dessus de tout reprend le menteur, Il Bugiardo de Goldoni. Après une tournée italienne, c'est à Vincennes jusqu'au 21 mai.
Per combattere la crisi mondiale, la famiglia Cannavacciuolo presenta Il Bugiardo di Carlo Goldoni.
Idolo del mio cuor, ardo per voi d'amor, e sempre o mia speranza, s'avanza il mio penar.
Con Valeria Cannavacciuolo!
Via svelaro cara,
e
la
ruolo
mia
di Beatrice!
Amara, ma un certo non
Lucchino
so
Cannavacciuolo.
Che, non so...
Nel ruolo di Florindo! Luciano Cannavacciuolo!
Ah, che non so parlare!
Nel ruolo del dottor Balanzoni!
Lontana sei, quando non mi vedete!
Marianella Cannavacciuolo!
Senza parlarvi!
Nel ruolo di Rosaura!
Del mio mistero!
Andrea Cannavacciuolo!
Maria! La
nel ruolo di Pantalone!
L'amor d'ossè! E l'ultimo sarebbe...
Senti Cannavacciuolo! Il ruolo del bugiardo
per voi sempre così alla
Lorenzo Cannavacciuolo nel ruolo di Arlecchino.
Voilà, ils sont tous là à vos côtés. Alfredo Arias, bonjour.
Bonjour.
Après les jumeaux vénitiens, la Locandiera, Il Ventaglio, pourquoi ces retrouvailles avec Goldoni? Goldoni, c'est d'abord une envie de scène pour vous?
C'est plutôt l'Italie qui me poursuit avec Goldoni. J'ai un lien très profond avec l'Italie. Je raconte toujours que, par exemple, j'arrivais dans mon premier voyage et puis cette langue est venue vers moi d'une façon incroyablement rapide et fluide et j'étais si près de cette expression. Et de la même façon est arrivé avec Goldoni. Ce n'est pas tellement que j'ai cherché, sinon je dirais qu'il est venu me retrouver. C'était le fait d'être en contact avec le théâtre italien a fait qu'on m'a proposé, qu'on m'approchait, que je me suis approché à Goldoni. Et j'ai découvert là un monde qui m'est familier, puisque il est à la limite entre les théâtres, disons des pantomimes, le théâtre de la Commedia dell'arte, et aussi quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus poétique. Et cette charnière m'intéresse d'explorer.
Alors, Le Menteur, il l'a écrit en 1749, publié en 53. Goldoni, le réformateur, on le sait, a renouvelé les codes de la Commedia avec Arlequin, serviteur de deux maîtres, entre autres. Il fonde le théâtre italien moderne, s'ancre déjà dans la réalité sociale de son époque. Vous parliez de langue, de cette langue commune avec Goldoni. Laquelle est-ce? Vous parlez vraiment la même langue, tous les deux?
C'est-à-dire qu'il y a justement cet artifice du théâtre, cette grandiloquence du théâtre avec quelque chose qui va dans une partie beaucoup plus fragile, intime et poétique des lettres. Il y a une très grande variation dans son théâtre. Je pense que moi j'ai dit toujours, il annonce Tchekhov d'une certaine manière et une psychologie très très délicate sur les êtres humains. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais de faire exister dans mes propres créations aussi, cette démesure et cette intimité. Alors ça m'a toujours inspiré et j'ai toujours eu envie d'aller découvrir ce qu'il y avait dans son monde.
Alors, Alors, on peut dire que la Commedia dell'arte est compatible, quelque part, avec le tempérament argentin, plutôt mélodramatique, non ? Tel que vous l'avez défini un jour.
Si, c'est-à-dire que, de toute façon, c'est sûr que nous sommes... la Commedia dell'arte exige encore... exige de passer toutes ces émotions à travers l'expression totale du corps. Et c'est sûr que, par exemple, si on prend une danse argentine comme le tango, c'est aussi une comédie de l'art et de la nostalgie, on pourrait dire, cette danse, puisqu'il faut que tous les corps racontent cette émotion.
Arlequin, Brighella, Pantalone, les femmes volages. Est-ce qu'il y a des personnages qui sont très archétypaux pour vous chez Goldoni de la comédie italienne? Ou est-ce qu'il a su réinventer aussi justement la psychologie de ces personnages types?
Oui, moi en fait dans cet spectacle, ce qui m'intéressait c'est de les déstructurer, parce que je me dis, plus j'avance dans mon travail ou dans mes recherches, je me dis je suis fatigué de trop comprendre, et je pense qu'on est dans une simplification constante des possibilités d'imaginer. Alors comme c'est une histoire qui est quand même très architecturée, c'est comme une machine infernale de quelqu'un qui ment en ment, alors ce que j'ai fait, c'est séparer en petites cellules ces différentes séquences, essayant de les donner à chacune une identité, plutôt en éclatant en divers horizons et diverses émotions théâtrales cette histoire. Mais il y a beaucoup de matériel quand on procède comme ça, parce qu'on ne se tient pas seulement à l'apparence de l'histoire, sinon qu'on va chercher en profondeur ce que chaque situation provoque, et c'est sûr que on peut trouver des contrastes très très forts.
Avant de vous faire mentir, on va écouter ce qu'en dit la comédienne Dominique Blanc, qui évoque à son tour le style Goldoni. Elle a joué du Goldoni, oui, à l'occasion de la Locandiera.
Je pense que Carlo Goldoni avait une connaissance de l'âme féminine absolument incroyable. Et c'est vrai que le personnage est d'une richesse inouïe. Et je pense que dans ces années-là, en Europe, il n'y a pas beaucoup de rôles féminins qui étaient aussi vastes que l'est celui de Mirandolina. Et je me demande si Carlo Goldoni n'est pas le premier metteur en scène du théâtre contemporain. Parce qu'en fait, il a réformé la Commedia dell'arte complètement. La Commedia dell'arte, c'était des masques et beaucoup d'humour au XVIe siècle. Au XVIIe, ça devient un peu désuet. Et Goldoni en a assez de ces numéros d'acteurs comme ça, qui improvisent toujours autour du même personnage et toujours autour de soi finalement. Ça donne des choses très narcissiques qui sont pas épatantes. Et Goldoni va être le réformateur de cette comédie italienne, et il sera le premier à écrire de véritables rôles, de véritables partitions, en tout cas en Italie, bien sûr. Nous, on a Molière un siècle auparavant, mais lui, il va écrire des rôles fantastiques, et il va écrire pour des comédiennes aussi.
Voilà, pour des hommes et pour des femmes. Goldoni, c'est un théâtre populaire pour vous, Alfredo Arias?
Ah oui, oui, absolument. C'est un théâtre qui tend une main aux spectateurs. C'est un spectacle qui, ce sont des spectacles qui invitent les gens à se promener dans la fantaisie du théâtre. Et c'est vrai ce que dit Dominique Blanc, que moi je l'exprimais en disant il annonce Tchekhov, mais il annonce aussi tous les théâtres contemporains. Et c'est frappant ça, et c'est ça qui peut enthousiasmer de l'aborder aujourd'hui.
La vie n'est qu'un songe, n'est qu'un grand mensonge. Alors le menteur, qui est-ce ? C'est Lélio, menteur invétéré avec son arlequin. Il est de retour à Venise, caussard, oisif, entretenu par son père Pantalone. Le courtisan raconte des bobards de plus en plus gros au fil des heures, comme un avocat. C'était d'ailleurs le métier que le dramaturge Goldoni a aussi pratiqué. Lélio dit dans la pièce « Je suis créatif, ce sont des inventions pleines d'esprit pour cacher ses mensonges ». Il a une jolie définition du mensonge. Vous mentez aussi, Alfredo Arias ? Vous êtes
absolument
un grand menteur ?
Absolument, c'est indispensable. C'est-à-dire, de toute façon, l'art d'un metteur en scène, c'est de mentir. Puisque, c'est-à-dire, si on si on serait sur la réalité et on raconterait la réalité telle qu'elle est, ça serait vraiment pas très inventif. Alors si mentir c'est une invention, moi je suis d'accord avec Lélio. Et d'ailleurs j'ai modifié un peu la fin parce que je revendique les mensonges du personnage, parce que les personnages modifient la vie des autres en créant quelque chose qui est moins monotone que le quotidien.
Ouais, ce sont les derniers mots de la pièce réécrite avec René de Secchetti, hein. Un hymne aux mensonges, je n'y renoncerai jamais, jamais. Vive les mensonges, vive les bobards, vive les galéjades, vive les inventions pleines d'esprit qui réinventent le monde. Donc à vous croire tous les deux ou tous les trois, déjà vous cautionnez, oui, il y aurait des mensonges nobles, oui. Des grands mensonges qui permettent de refaire le monde.
Mais bien sûr, je pense que j'aime bien les gens qui ont une fantaisie dans la vie. Alors si on se tient que à la vérité morale, surtout, c'est très ennuyeux. Il faut avoir une capacité. Je veux dire, si c'est mentir pour faire du mal, c'est ennuyeux. Mais si c'est mentir pour donner une base à l'invention, moi je suis d'accord que le mensonge est un instrument intéressant.
Mais alors quel est pour vous, Alfredo Arias, le plus grand et le plus beau mensonge actuel ?
La politique.
Avant l'amour.
Je crois que l'amour, on peut se débrouiller pour vraiment faire de ces mensonges, les rendre aussi beaux ou aussi pathétiques qu'on veut, tandis que la politique, ça nous échappe des mains et peut-être c'est un mensonge qui peut être dangereux.
Mais qui peut aussi changer le monde.
Ainsi, espérons.
Quel est le canevas ici dans Le Menteur ? Quel est le ressort de la comédie ?
C'est-à-dire c'est un homme qui commence à prendre la place de quelqu'un d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il se propose comme celui qui tout part d'une sérénade. Alors il se propose comme quelqu'un qui c'est lui qui a produit cette sérénade. Et à partir de là, il commence à inventer une quantité de personnalités différentes qui vont embrouiller la vie de tout le monde. Mais ça, je trouve très intéressant. Son inépuisable. Lui-même, il est surpris. Il dit, je ne savais pas que je pourrais inventer autant. Et j'espère pouvoir dire la même chose à la fin de ma vie.
On va écouter un extrait de la pièce. Elle a été créée en Italie. Mmh. Elle est jouée par des comédiens italiens.
Absolument.
Elle arrive en ce moment à Vincennes. Elle est donc en italien sur scène aussi.
Et sous-titrée.
Surtitrée ou sous-titrée, oui. Effectivement, en français. Donc, l'extrait que nous allons entendre est en italien.
Dove l'andà?
So
tutto!
Il cameriere mi ha detto tutto!
Allora, come si chiama?
Ne son fiedo, un certo mi sono dimenticato il nome del padre, come si chiama? Un attimo, adesso così mi confondo!
Sono figlio di un medico
che si chiama, come si chiama il padre?
E come si chiama? Rispondi da cartocci e ricci!
Una si chiama Rosaura, l'altra Beatrizia!
E mo la vedami! Perdonino, vero? Ho dato una commissione al mio servitore.
Ah, ma voi siete veneziano pur forestiere?
Sono un cavaliere napoletano. Cavaliere napoletano, dopo cento una volta.
Ma come ci conoscete?
Beh, è ormai un anno che albergo incognito in questa città sotto casa vostra. Ma se siamo arrivati ieri sera? Appena arrivato, subito mi si presentarono agli occhi le bellezze della signora...
Rosaura
e della signora...
Beatrizia.
Grazie, Beatrizia. Senti qualche tempo dubbioso a chi dovessi donare il mio cuore, ma finalmente sono stato costretto a dichiararmi.
Per chi?
E questo è quello che per ora io dir non posso, questo appunto è il segreto. Il segreto!
Se le detenderà, el le torrà tutte do...
Là, c'est un échange entre Lélio, le bonimenteur, et son valet Arlequin. Il a repéré deux belles au balcon, hein, Rosaura et Beatrice. Et il commence cette discussion avec elle sur un mensonge, justement. Rosaura lui demande « Mais vous êtes vénitien ou étranger ?» Lélio répond « Je suis un gentilhomme napolitain. » Arlequin précise « Gentilhomme et napolitain », ça fait deux mensonges d'un coup. Et voilà, les mensonges sont lancés et le ton de la pièce est donné sur ce premier mensonge de Lélio. Alfredo Arias, quelle variation vous avez cherché à faire ici de ce Goldoni? Comment vous avez cherché à vous le réapproprier pour le mettre aussi aux couleurs de l'époque?
C'est-à-dire que, de toute façon, je me suis permis, au milieu du spectacle, parce que je pensais qu'il fallait le jouer en ayant une conscience de notre époque, de la distance peut-être que ce théâtre, même si nous c'est proche, peut évoquer chez les spectateurs. Alors je me suis permis de faire une improvisation au milieu du spectacle dans lequel on restitue l'idée d'une troupe qui est devant le monde aujourd'hui. Et par exemple, il parle d'une façon spécifique dans cette improvisation de Venise, de l'état de Venise, comment Venise est envahie par la banalité du tourisme, par la dégradation de l'artisanat qui lui était propre. Et ça donne un éclairage qui permet aujourd'hui d'assumer, de dire on ne fait pas un bloc, un texte sans se rendre compte de la réalité dans laquelle nous sommes. Et puis sinon, j'ai fait un glissement. Je commence comme si c'est une troupe un peu démunie des moyens dans une époque qui nous est proche. Et peu à peu, le spectacle grandit dans l'imaginaire goldonien, c'est-à-dire c'est créer des mouvements, des sensations, de réinventer à partir de ma sensibilité ce théâtre, logiquement.
Ce qui est frappant avec Goldoni et cette pièce, le menteur Il Bugiardo, c'est que chacun vit dans son monde, finalement. Et c'est un jeu de dupes entre tous ces personnages. Il n'y a pas de sentiment sincère chez Goldoni.
Non, dans ces cas-là, je pense que si Rosaura a des sentiments, et elle réclame avoir des sentiments, c'est l'héroïne de l'histoire, mais justement, c'est le contraste de quelqu'un qui se voit totalement emporté par les mensonges de l'autre. Je pense qu'il y a d'autres pièces, comme disait Dominique Blanc, par exemple La Locandiera, où il y a beaucoup de vérité. Ici, c'est un jeu d'apparence et éventuellement, les désordres que ces fausses apparences peuvent créer dans la réalité de chacun.
C'est le propre de l'homme, quand même, beaucoup, ou les femmes trichent aussi avec leurs sentiments?
J'espère.
Et pour vous, Alfredo Arias, quel est le sentiment le plus sincère qui soit?
Alors, je dirais l'amour. Par exemple, vous m'avez posé la question aussi. Si. C'est-à-dire, même si on se trouve devant une situation compliquée pour pouvoir les communiquer, je pense que c'est les sentiments qui nous transportent plus loin à nous-mêmes.
Lélio parlant de lui-même, « Je suis un jeune homme plein d'allure et d'esprit, aimé, adoré de tous, les femmes lui couraient après, 137 se sont suicidées, c'est l'idole de Naples, et le plus remarquable c'est que son cœur est pur et sincère, et qu'il est impossible qu'il ne dise toujours l'entière vérité. » Présomptueux, ce Lélio, pas le moins du monde, il s'accepte ou il se veut comme tel, c'est un jeu de masque hein, de toute façon cette pièce, Alfredo Arias, et c'est ça qui fonctionne. On dit que vous aimez le rire, mais vous riez comment? Comment vous, Alfredo Arias, vous riez jaune, vous riez franc, vous avez un rire de résistance, comme dirait votre ami du rond-point.
Je sais, qu'est-ce que j'essaierais sans le rire, parce que pour faire un long chemin, comme j'ai eu la chance de faire, si on ne s'arrête pas dans la tourmente et on peut rire de soi-même, on peut rire parfois du ridicule et du pathétique du monde, c'est impossible. Le rire, c'est une façon d'être lucide. Alors, espérons rire aussi souvent que soit possible pour continuer à être lucide.
Un long chemin qui vous a amené de l'Argentine jusqu'à nous. Ici, vous êtes franco-argentin aujourd'hui, Alfredo Arias. Ce chemin, il y en a qui aujourd'hui le font dans le sens inverse, comme le plus argentin des chanteurs français, c'est Benjamin Biolay.
J'ai voulu raconter ma passion pour ce pays, pour la musique d'Argentine et de latino-américaine en général, et l'amour que j'ai pour Buenos Aires, qui est un pays, une ville que j'aime passionnément, vraiment. C'est toujours bien de s'éloigner. D'ailleurs, on n'aime jamais autant la France que quand on y revient. En tous les cas, moi, dès que je reviens en France, je suis tellement content. Et j'avais envie d'être entouré de ces musiciens argentins que j'adore, d'être dans cette ville qui est tellement intense, tellement paradoxal. Mais en plus, cette ville, elle me ressemble un peu. C'est-à-dire qu'elle peut être extrêmement mélancolique, mais aussi extrêmement joyeuse. Par contre, un Argentin nostalgique, c'est quelque chose. C'est du tango.
Je me souviens du goût des gens, de la torpeur et des tourments. Il n'y a pas 5 heures, j'avais 15 ans, mais plus grand chose de l'enfant. Je me rappelle d'un torrent, d'un homme singe et d'un cadran, de cette douleur entre les dents, de la douceur d'aucun printemps avant. Avant. les faire, tout comme les riches, tout en les maudissant au fond. Je me rappelle de quelques friches, de mes vieux copains vagabonds. Y a pas 4 heures, j'avais 20 piges, déjà les soucis d'un vieux con. Aujourd'hui encore je m'entiche de quelques arbres juste pour le tronc. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux. Elle peut te faire croire par mégarde qu'elle est deux, mais elle n'est qu'une, sans rancœur. Rancune. Je me souviens de leurs amants, cette tête de con, cette tête de gland. Il y a 3/4 d'heure, j'avais 30 ans, le cul d'un orang-outan. Je me rappelle de pas grand chose, un coin de ciel qui vire au mauve. J'étais déjà bien peu de choses, comme bien des rebelles sans cause. Il y a pas de plomb, j'avais 40, la vie était déjà moins marrante. Tamboyau, couleur amarante, chaque été en douce pente. La vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux.
C'est beau.
Après Palermo Hollywood, oui, c'est beau, c'est un nouvel extrait, c'est un extrait de Volver, l'album que Benjamin Biolay a réalisé notamment en duo avec Chiara Mastroianni et surtout des musiciens argentins. L'album sera dans les bacs le 19 mai, c'est-à-dire en fin de semaine, deuxième volet de son diptyque argentin.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Volver comme revenir, album enregistré entre Paris et Buenos Aires. Un Argentin nostalgique, c'est du tango, nous dit Benjamin Biolay. Alfredo Arias, ça devrait vous plaire. Vous qui avez dû fuir à la fin des années 60 l'Argentine, il y a maintenant une génération d'artistes comme Biolay qui va à Buenos Aires pour créer, s'imprégner, se renouveler. L'Argentine comme source d'inspiration, hein, c'est le chemin inverse.
Oui, mais c'est une ville qui est suffisamment à la fois chaotique et chaleureuse pour provoquer la création. Moi, par exemple, quand je suis là-bas, je déteste tout et j'aime tout en même temps, ce qui fait que j'ai besoin de faire. Et j'aime beaucoup faire dans cette situation, par exemple, qui est troublante tout le temps. Par exemple, j'ai fait un spectacle au cœur dans un théâtre qui est au cœur du quartier italien, justement, ça s'appelle La Boca, qui est à 2 pas du grand stade de football et tout ça. Et je dois dire, traverser la ville avec toutes ces côtés contradictoires. Par exemple, je devais traverser beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements. Par exemple, on ne peut pas jouer les jours où il y a match de football et tout ça. Et toutes ces difficultés me donnent envie d'exister là-bas. C'est-à-dire parce que ce n'est jamais monotone. C'est toujours un peu au bord du gouffre. Hein. Et ce gouffre est loin de la nostalgie, je dois dire, pour moi.
On sait que les Argentins sont quand même le plus européen des Sud-Américains. Vous avez remonté un peu le fil, l'arbre généalogique, le vôtre. Vous avez des origines italiennes.
Italiennes, espagnoles, c'est sûr.
Et voilà.
Mais curieusement, c'est en France où j'ai pu peut-être mieux m'exprimer. Maintenant, c'est l'Italie qui me donne aussi un chemin à suivre avec Goldoni et d'autres créations qu'on verra ici en France aussi. Alors, mais je suis content de pouvoir refaire ce tapis, cette issue duquel je me suis envolé.
Mais votre part argentine, c'était surtout cette part d'enfance que vous avez gardée en vous et que vous avez raconté, trio sur vos tantes, famille d'artistes, la revue Mortadella, le Faust argentin sur un air de tango, Déshonoré, comédie pâtissière. Vous en avez fait des pièces et des mises en scène hein, autour de ce passé et toujours si présent argentin. Vous vous retournez souvent sur cette histoire, sur les figures aussi de votre première vie argentine. Aujourd'hui, ce passé que vous avez filtré à l'imaginaire, vous avez le sentiment que vous pourriez le quitter pour raconter l'Argentine d'aujourd'hui, voire celle de demain.
Oui, c'est-à-dire que moi, comme j'ai vécu cette histoire, il me semble qu'il y avait beaucoup de choses encore à régler moi-même, par exemple, avec J'avais envie d'en finir avec le péronisme, de passer à une autre chose. Par exemple, ma première création ici était Vaperon des copies. Et en même temps, par exemple, en faisant Déshonoré, j'ai vu qui parlait encore de l'époque du péronisme, j'ai voulu me délivrer, sortir, en finir pour voir un futur. Alors parfois, il faut aller en arrière pour pouvoir vraiment donner un pas vers le futur. Et c'est pour ça que j'ai traité tous ces thèmes, pour pouvoir être disponible pour ce qui va venir.
Eva Perón, mi Marilyn Monroe, mi Staline, comme l'avait décrit Copie. Hein. Mélange de dictateur et de femme fatale, la madone du peuple argentin. Un mot de la musique qui est toujours très présente dans vos pièces. Et on se quittera peut-être dessus. Il y en a aussi hein, dans le menteur de Goldoni, Il Bugiardo. Il y a une chanson de Patti Bravo que vous
reprenez. Si, je l'ai mis, mais après, ils n'ont pas osé continuer à la chanter parce qu'ils ont trouvé que j'avais dépassé la dose.
Oui, c'était trop. Hein, une chanteuse italienne d'aujourd'hui.
Ils se sont sentis intimidés. Oui, j'avais mis la bambola parce que justement, il y a un personnage qui... La bambola, c'est une chanson de Patti Bravo.
Je sais pas.
Tu me fai girar, tu me fai girar comme si fosse una bambola. Je chante très mal, mais ça c'est... Et on peut aller chercher après en YouTube et Patti Bravo. Et il peut passer un bon moment.
Nicoletta Strombelli hein, dans la vraie vie.
Oui, ouais, c'est ça. Bravo. Mais bon, la musique m'est indispensable parce que, si vous voulez, c'est ce qui me permet de rentrer tout de suite à l'émotion. C'est-à-dire, quand on part d'un texte, il faut être très patient pour découvrir la musique, tandis que la musique, elle est une émotion qui vous transporte tout de suite. Et de temps en temps, j'ai besoin, même dans les pièces de texte, mettre de la musique pour qu'il me propulse vers quelque chose de très vivant et très intense.
Quelle musique? Toutes les musiques, Alfredo Arias?
Moi, j'aime beaucoup la musique populaire, logiquement. C'est-à-dire, commençant par... Par exemple, par les tangos que peu à peu j'ai découvert et que finalement j'ai trouvé ma contemporanité dans les tangos justement avec Astor Piazzolla, parce que l'autre tango je ne le comprenais pas. Et en fait, c'est rencontrant Astor Piazzolla qui écrit une musique pour un spectacle, moi, j'ai découvert l'autre tango. C'est-à-dire celui qui m'a permis de rentrer dans la sensibilité de cette musique.
La scénographie du menteur est signée Chloé Obolensky, il faut peut-être juste le préciser. Les acteurs, ils se sont présentés en ouverture de l'émission. Le menteur Il Bugiardo de Goldoni, mis en scène par vos soins, Alfredo Arias, est à voir à partir de cette semaine à Vincennes au théâtre de l'Épée de Bois jusqu'au 21 mai. J'ai tout dit, vous allez tourner après?
Et c'est la conclusion d'une longue tournée.
C'est déjà la conclusion d'une longue tournée. Et vous terminez par Paris, Vincennes.
Si.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Merci.